Bon lundi à vous, il est 7h14. Ce week-end, le journal Le Monde et Reporters sans frontières ont lancé un appel en faveur de la liberté de la presse en Turquie. Un appel lancé tout juste un an après le coup d'État manqué. Bonjour Piraski.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau président de Reporters sans frontières. Vous êtes avec nous en duplex de Paris. La Turquie est présentée comme étant la plus grande prison pour journalistes au monde. Combien y a-t-il de journalistes derrière les barreaux en Turquie aujourd'hui ?
Alors, selon certaines estimations, il y en aurait 166, ce qui fait effectivement de la Turquie la plus grande prison pour journalistes, et ce nombre a décuplé depuis la tentative de coup d'État d'il y a un an.
Pour quel motif est-ce que ces journalistes se retrouvent en prison ?
Alors, officiellement, ils sont accusés de subversion, de soutien à la secte Gulen ou d'incitation à la violence. Dans la réalité, beaucoup d'entre eux sont simplement des détracteurs du président Erdogan et sont là par délit d'opinion et pas avec des dossiers très, très étayés. Pour vous donner un exemple, je parraine, dans le cadre d'une autre opération faite par la SCAM, une société d'auteurs en France, un homme qui s'appelle Ahmet Altan, qui a 67 ans, qui est une des grandes figures de la presse turque, rédacteur en chef de plusieurs journaux au cours de sa longue carrière, romancier également, publié en France. Et il est accusé d'avoir prononcé des paroles subliminales dans les jours qui ont précédé la tentative de coup d'État, qui incitaient au soulèvement contre le président Erdogan. Alors, le crime de paroles subliminales est quand même assez ténu.
Et il faut dire que justement, les arrestations se sont nettement, clairement multipliées après la tentative de coup d'État de l'an dernier.
Oui, parce qu'il y a non seulement ces 166 journalistes détenus, mais vous avez des dizaines de journaux, radios, télévisions fermés. 150 journalistes sont connus comme ayant fui à l'étranger, dont par exemple Can Dündar, qui était le rédacteur en chef du grand quotidien Cumhuriyet, qui vit aujourd'hui en Allemagne. Sa femme est restée en Turquie, on lui a retiré son passeport pour qu'elle ne puisse pas rencontrer, revoir son mari. Et vous avez 750 journalistes qui ont perdu leur carte de presse, donc ils ne peuvent plus travailler. Donc il y a une régression phénoménale de la liberté de la presse dans ce pays.
Et il faut encore ajouter aussi que les conditions de détention pour les journalistes qui sont derrière les barreaux sont très très rudes.
Oui, alors le président Erdogan a même lancé une menace dans son discours hier en voulant que les gens qui étaient détenus dans la foulée du coup d'État aient une tenue particulière, comme c'est lui qui a cité l'exemple, comme les prisonniers de Guantanamo, dont on sait qu'ils avaient ils ont une tenue orange, qu'il est une sorte de stigmatisation supplémentaire.
Alors vous lancez un appel avec le journal Le Monde. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement, Piraski ?
Tout simplement le respect de l'état de droit, c'est-à-dire que effectivement, quand un journaliste est accusé de violence ou d'incitation à la violence ou de participation à un coup d'État, que ça soit étayé, traduit en justice avec une justice indépendante. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des dossiers qui sont constitués de manière purement arbitraire face à une justice qui est aux ordres. Donc on a quitté les rivages de l'état de droit en Turquie aujourd'hui dans le traitement des conséquences du coup d'État manqué de l'an dernier. Donc la première et unique revendication, c'est que l'état de droit soit appliqué, que ceux contre lesquels il n'y a aucune charge soient libérés et qu'on revienne à un état normal de liberté de la presse, comme la Turquie avait connu pendant quelques années. Il y a eu énormément de progrès dans ce pays. Il faut savoir d'où on vient. Il y a une grande histoire de coup d'État militaire, de dictature dans ce pays, et on s'en était éloigné. Et là, on est revenu à une situation d'arbitraire, et c'est par rapport aux journalistes turcs, c'est insupportable.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez écrit par exemple aux autorités turques ?
Alors, il y a deux choses. Cet appel, il est à la fois dirigé en direction des autorités turques pour leur demander effectivement de respecter l'état de droit, mais c'est aussi un message envoyé à ces journalistes qui sont détenus ou qui sont en tentative de survie à l'extérieur pour leur dire qu'on ne les oublie pas. Et je pense que c'est important de montrer ce signe de solidarité. Il y a eu énormément de malentendus entre la Turquie et l'Europe, par exemple. Et je pense que c'est important aujourd'hui que l'Europe soit du côté de ces gens qui se battent pour garder une Turquie démocratique et de l'état de droit.
Pierre Aski, vous êtes le président de Reporters sans frontières. Vous êtes aussi l'ancien correspondant en Chine du journal Libération. Ce week-end, le prix Nobel de la paix et grand défenseur de la démocratie, Liu Xiaobo, a été incinéré en toute discrétion. Ses cendres ont été dispersées en mer. Tout est allé très très vite. Qu'est-ce que ça raconte, Pierre Aski, cette précipitation ?
Ça dit beaucoup de choses de la situation chinoise, de la peur de ce régime qui est pourtant puissant, qui a réussi à faire de ce pays la deuxième puissance économique mondiale, qui n'est pas véritablement contestée à l'intérieur, et qui pourtant a peur d'un intellectuel de 61 ans, qui n'emploie que des mots, qui a toujours été un pacifiste. Son rôle pour éviter qu'il y ait plus de sang en 1989, lors du printemps de Pékin sur la place Tiananmen, a été reconnu par tous. Et pourtant, cet homme fait peur, et on le laisse mourir en prison, on l'incinère en catimini, sa veuve est dans une situation terrible.
Le silence de cette veuve inquiète beaucoup ce matin encore.
Oui, tout à fait. Vous savez, depuis qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2010, elle est assignée à résidence. Elle est dans un isolement complet, sans téléphone, sans internet, avec uniquement une petite liste de personnes ayant le droit de la voir de son entourage immédiat. Elle a sombré dans la dépression pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, après avoir assisté impuissante à la mort de son mari, elle est toujours bâillonnée. Et ça, c'est quand même assez insupportable. Plusieurs pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis et d'autres, ont appelé à la liberté de mouvement pour Liu Xia, donc la veuve de Liu Xiaobo, contre laquelle aucune charge n'a jamais été lancée. Elle n'est accusée de rien, sinon d'avoir été mariée à un homme qui affirmait son rêve de voir la Chine évoluer vers la démocratie.
Une question encore, Pierre Aski, quand vous avez pris vos fonctions à la tête de Reporters sans frontières à la fin du mois de juin, vous avez écrit « Je suis conscient que c'est un grand défi à une époque où le journalisme et la liberté d'informer sont menacés partout. » Partout, y compris en France et en Belgique ?
Oui, je pense qu'on est dans une période où il faut revoir le concept de menace à la liberté de la presse. Autrefois, l'action d'une organisation comme Reporters sans frontières était simple. Il y avait effectivement des atteintes à la liberté de la presse en Turquie, en Chine ou dans d'autres pays. On fermait des journaux, on emprisonnait des journalistes. Aujourd'hui, il faut voir que ces menaces sont de toutes sortes, y compris, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à cette notion, y compris par exemple le phénomène de ce qu'on a appelé les fake news, de la post-vérité, de cette confusion qui est générée dans le concept même d'information dans nos pays dits démocratiques, est une menace à la liberté de l'information, parce que on délégitime les journalistes. Il faut voir ce qui se passe par exemple aux États-Unis quand Donald Trump tweet à longueur de journée que le New York Times ou CNN sont des fake news, et on a cette confusion qui est générée auprès des lecteurs qui ne savent plus où est la vérité, où est le mensonge, qu'est-ce qu'un fait vérifié, est-ce que les faits existent toujours, est-ce qu'ils ont encore la même importance. Ça, c'est une catégorie de menace. Et puis, il y en a une autre qui est claire et qu'on voit également, qui est la précarisation du métier de journaliste, la crise économique que traverse une bonne partie de la presse dans les pays industriels, parce qu'il y a un changement de modèle, un changement d'époque, une concentration accrue des médias en quelques mains. Et tout ça, ce sont des phénomènes qu'il faut analyser. Il ne s'agit pas de tout mettre dans le même sac, mais en tout cas de comprendre que la liberté de l'information n'est pas simplement menacée par des dictateurs avides de pouvoir, mais qu'elles peuvent être de plusieurs formes.
Pierre Aski, merci d'avoir été ce matin en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de Reporters sans frontières. Merci à vous et bonne journée.